Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG de l'aménagement du logement et de la nature en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Nous vous proposons aujourd'hui une émission dédiée à la permanence territoriale et architecturale et à la programmation ouverte, vue comme des outils leviers, une méthode pour réhabiliter et transformer les espaces et bâtiments délaissés en recréant du lien entre écologie, culture et urbanisme. Alors cette démarche exemplaire est développée par l'association Notre Atelier commun, la preuve par 7, fondé par Patrick Bouchain et soutenu depuis 2019 par deux directions ministérielles, la DGALN du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et la DGPA du ministère de la Culture. Habiter en construisant, construire en habitant, c'est ce à quoi s'attache cette association, pionnier de la valorisation des lieux urbains et ruraux délaissés. Patrick Bouchain fut un architecte engagé qui s'est attaché à réinventer la ville avec ses habitants, pour ses habitants. Et c'est à Sophie Ricard et Laura Petitbon qu'il a laissé les rênes de l'association pour continuer à expérimenter, à documenter et à transmettre les pratiques de l'urbanisme vivrier. L'urbanisme vivrier, c'est l'art et la technique permettant d'aménager, de construire et de réparer aussi avec les habitants à partir des ressources matérielles et aussi immatérielles locales afin que les espaces délaissés puissent prendre et reprendre vie dans un territoire renforcé. Cette émission est donc l'occasion d'interroger les pratiques de l'urbanisme vivrier et de donner à voir d'autres manières de faire, celle de la permanence territoriale et architecturale et de la programmation ouverte. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin sur le plateau Pauline Sirot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chef du bureau des stratégies territoriales de la sous-direction aménagement durable à la direction de l'aménagement du logement et de la nature, DGALN, au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Corinne Langlois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la sous-directrice de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie à la Direction générale du patrimoine et du logement au ministère de la Culture. Sophie Ricard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la co-directrice de l'association Notre Atelier commun. Et bien sûr, Hélène Parmentier, bonjour. Vous êtes la chargée de mission mobilisation des territoires également à la DGALN pour relayer à nos invités les questions que les auditeurs peuvent dès à présent, je vous le rappelle, poser dans le chat de l'émission. Donc n'hésitez pas. Pour commencer, Sophie Ricard, peut-être pourriez-vous nous présenter plus précisément l'activité de votre association et puis les méthodes de l'urbanisme dit vivrier dont on a parlé.
Alors oui, donc la preuve par 7, c'est une démarche, on va dire, expérimentale d'urbanisme, d'architecture et de paysage qui a bientôt 6 ans maintenant. Voilà, soutenue par donc les ministères que vous venez de mentionner et les directions, ainsi que la Fondation de France, en vue justement de promouvoir ce qu'on appelle le droit à expérimenter sur différentes échelles territoriales. Donc au départ, on s'est cantonné, on va dire, à 7 projets sur 7 échelles différentes. C'est-à-dire qu'on a questionné l'habitabilité de la ville moyenne, du bourg de village, de la commune de banlieue, du bâtiment public désaffecté, etc., en vue de re-questionner la façon dont on pourrait rénover, réhabiter ou en tout cas redonner une nouvelle valeur d'usage à ces bâtiments parfois délaissés, dans des territoires parfois décentralisés, qui manquent d'ingénierie pour pouvoir repenser leur habitabilité. Pour ce faire, on déploie aujourd'hui, on a des méthodes qui sont dites leviers et dont on a constaté depuis plusieurs années, plus de 15 ans maintenant, aux côtés de Patrick Bouchain, mais pas que, c'est un mouvement générationnel aujourd'hui qui est à l'œuvre sur le territoire national et en Europe, en vue justement de retravailler sur une autre forme d'urbanisme et d'aménagement du territoire, en se disant que, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus, on va dire, déléguer comme ça des politiques publiques peut-être trop questionnées en amont et peut-être trop centralisées et téléguidées comme ça sur des territoires de façon uniformisée, qu'il fallait absolument accompagner sur le terrain les collectivités territoriales, en vue justement de leur, peut-être de leur montrer qu'on peut faire un pas de côté et qu'on peut tout d'un coup redonner une valeur à un espace délaissé, à du foncier dont on ne saurait pas quoi faire, à la problématique, on va dire, des centres-bourgs qui sont et de l'architecture vernaculaire dont on ne sait plus, parce qu'on ne sait plus les habiter, on a construit du lotissement, mais il faut bien faire revenir les populations à l'intérieur de ces cœurs de bourg, etc., etc. Donc on est sur toutes ces échelles et on s'est aperçu qu'en habitant le territoire même, quand les architectes reprennent possession du terrain, se positionnent en amont de la commande, c'est-à-dire à l'accompagnement de la rédaction de la commande publique auprès des maîtrises d'ouvrage, des opérateurs, des sociétés publiques locales d'aménagement, des élus, etc., on est en capacité, sur le temps long, de mener des études qui ne sont pas des études faites par des bureaux d'études spécialisés ex nihilo sur papier, mais des études qu'on appelle en acte, c'est-à-dire être sur le terrain, mettre à l'épreuve les territoires et les bâtiments par l'usage, associer la population, la société civile, mais pas que, les élus, les techniciens, mais aussi derrière les entreprises, les savoir-faire locaux, les savoir-faire du territoire, en vue qu'ils puissent s'approprier avant même la définition de la commande, la future commande publique, pour passer à l'opérationnalité derrière et avoir déjà ce schéma cohérent issu de toute la filière de la construction du bâtiment qui puisse être prédisposé demain à investir, à construire, à occuper, à habiter et donc à gérer derrière son patrimoine. Donc la permanence architecturale nous permet ça. Elle va accompagner l'écriture de la commande publique. Ça demande aux architectes de venir en amont et de ne pas être les derniers maillons en bout de chaîne de la commande qui arrive une fois que le programme est fait, qui arrive une fois que la commande est construite et de travailler vraiment avec tous les métiers de la filière. Donc ça veut dire un changement de posture pour les opérateurs, pour les maîtrises d'ouvrage, pour les commanditaires, pour les architectes, mais aussi associer directement la population puisque ces projets-là permettent aussi de réactiver nos démocraties locales parce que quand on va penser... Voilà, quand on va essayer de faire revenir des lotissements, des populations des lotissements en cœur de bourg et de travailler ensemble sur la nouvelle habitabilité d'une architecture vernaculaire en plein cœur de bourg, ça se fait avec eux, ça se fait pas sans eux. Sur la question du ZAN, du zéro artificialisation net, ça se fait avec la population. Sur la question du recul du trait de côte, ça se fait avec la population, etc. etc. Donc on est obligé aujourd'hui, mais que ce soit sur la requalification des grands ensembles, c'est pareil, on a tous ces sujets à traiter et on sait aujourd'hui qu'il y a une méthode, c'est la permanence architecturale, associée à la programmation ouverte, c'est-à-dire de pas concevoir un projet en amont, de laisser advenir l'imprévu en testant des choses, en mettant à l'épreuve, comme je disais, des situations foncières en friche ou des situations construites aussi délaissées, et de faire confiance aussi à cette population parce qu'elle va pouvoir occuper et en occupant ces territoires-là, peut-être démontrer qu'il est possible de faire autrement. Ça demande à l'élu et au commanditaire on en parlait tout à l'heure avec Corinne Langlois, de prendre un risque politique aussi, puisque ces bâtiments, ces patrimoines, ces terrains ne sont pas forcément aux normes pour accueillir du public, mais ça demande de déléguer voilà, toute la responsabilité à tout le monde. Ça permet de réaliser ce qu'on appelle des études de faisabilité en acte ou des plans guides en acte, c'est-à-dire qu'on ne se concentre pas juste sur le patrimoine bâti, mais aussi sur la question de la stratégie d'aménagement d'un cœur de bourg, d'un cœur de ville ou de métropole. Donc on est sur des territoires à chaque fois des échelles très très différentes. Et à côté de ça, donc on a fait un certain nombre de projets sur cette échelle. À côté de ça, on décide aussi de transmettre les projets qu'on n'a pas accompagnés, mais qui sont aujourd'hui dispensés par des acteurs du territoire qui innovent et dont on voit qu'ils vont créer ce qu'on appelle des jurisprudences ou en tout cas des modalités, nouvelles modalités économiques, juridiques et financières peut-être, pour permettre justement à des opérateurs de se lancer dans des opérations qui paraîtraient innovantes ou un peu hors du commun, de pouvoir les financer et de pouvoir accompagner cette nouvelle habitabilité. Donc on a fait un centre de ressources accompagné par notre tutelle qui s'appelle l'École du terrain et donc qui met en œuvre les récits de ces expérimentations sur le territoire national et outre-mer, enfin métropolitain et d'outre-mer, et qui met aussi en accès libre les documents type techniques juridiques qui ont été réalisés, type l'étude de faisabilité en acte mise en œuvre par la collectivité à Roubaix sur l'ancien couvent des Clarisses, etc. etc. Ensuite, on a un gros pôle qui est... donc là, on transmet effectivement les récits, machin, et on a les récits et puis les façons de faire, les méthodologies, c'est-à-dire qu'on a fait aussi un onglet qui s'appelle Manière de faire, où on raconte véritablement comment peut se mettre en œuvre une permanence architecturale en amont de la commande publique, c'est-à-dire quel prix ça coûte, on en parlait tout à l'heure, et comment on la met en œuvre dans la commande publique, est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui réglementaires qui nous permettent de la mettre en œuvre, et derrière, on a aussi, avec notamment le ministère de la Culture, cette vraie envie de se dire qu'il faut absolument travailler dès le début de la chaîne, c'est-à-dire dans le cadre de nos enseignements dans les écoles d'architecture et d'urbanisme, et donc c'est comment on fait pour que dès l'école, dès notre enseignement, on sache qu'aujourd'hui on ne peut plus construire, on ne va plus construire comme avant, on ne va plus construire forcément du neuf. Il va falloir réparer les territoires, se positionner sur l'existant, sur le patrimoine matériel et immatériel dont on hérite. Donc il va falloir mettre plus de matière grise, moins de matière première, et ça veut dire de l'ingénierie, recaper en ingénierie les territoires et souvent décentraliser. Mais ça veut dire aussi former les architectes. Ils ne feront plus le Guggenheim comme avant, ils vont devoir réparer les choses et accompagner la commande publique, la rédaction de la commande publique.
Alors justement, pour illustrer vos propos, Sophie, je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Jean-Pierre Buche, qui est le maire de Pérignat-sur-Rallier, une petite commune de 1504 habitants située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand, dans le département du Puy-de-Dôme. La commune s'est engagée en 2019 dans un projet de programmation ouverte à l'échelle d'un quartier, celui du Bourg. La commune a été accompagnée par Rural Combo, une agence d'architecture locale qui a assuré la permanence architecturale et urbaine pour mettre en œuvre un plan guide en acte. On écoute tout de suite. Bonjour Jean-Pierre Buche, vous êtes le maire de Pérignat. Quelles ont été les motivations du conseil municipal à adopter une méthodologie différente pour réhabiliter le centre ancien de votre commune dénommé le village en chantier ?
Et moi, j'ai essayé de sensibiliser mon conseil municipal puisque je suis élu au Grand Clermont, qui est un pôle d'équilibre territorial et rural, qui traite du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et qui s'applique à une centaine de communes. Et par expérience, j'avais constaté que les méthodes d'urbanisation, d'aménagement du territoire étaient quand même assez classiques et qu'on aboutissait à des produits qui, quelquefois, même souvent, ne correspondaient pas réellement à la demande des habitants. Donc, après avoir rencontré Patrick Bouchain, qui est un architecte qui s'est préoccupé bien avant nous de ces questions-là, eh bien, on a décidé d'essayer d'impulser une nouvelle dynamique pour réhabiliter le centre-bourg. Alors, pour la raison que je viens de vous citer, mais également parce que c'est vraiment un objectif fondamental pour nous, que de réhabiliter des maisons qui sont ou abandonnées ou pas en très bon état, plutôt que d'aller consommer des terres agricoles en construisant des pavillons qui dénaturent le paysage et qui sont à l'inverse des objectifs qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire d'essayer de limiter notre empreinte à nous, hommes du 21e siècle, sur la planète. Donc, ces raisons-là nous ont conduit à faire ce qu'on appelle une zone pilote d'habitat, et puis aussi, après, village en chantier. Et là, la spécificité de village en chantier, c'est d'essayer d'associer le plus possible et très en amont les habitants actuels ou futurs, puisque les habitants actuels vont avoir comme voisins des personnes ou des maisons à la construction desquelles ils pourraient participer, et puis les futurs habitants pour qu'ils trouvent un lieu d'habitat en l'ayant travaillé avant, et c'est ces méthodes-là qu'on a essayé d'appliquer dans Village en Chantier.
Alors, comment avez-vous appliqué la méthode de la programmation ouverte ?
Alors, programmation ouverte, nous, c'est un concept que, personnellement, je ne connaissais pas, bien que je sois maintenant un vieil élu par le nombre de mandats que j'ai fait. J'en ai fait 4, enfin, c'est mon 4e, là. Et cette notion de programmation ouverte, moi, je l'ai interprétée. Peut-être que des puristes remettrait en question cette interprétation, mais c'est le fait de ne pas figer les choses. C'est-à-dire que si vous avez une programmation qui est la base sur laquelle s'appuie un architecte pour dire, vous m'avez dit dans votre programmation que vous vouliez tel espace, tel espace, tel espace, moi je le traduis comme ça dans le plan que je vous propose, eh bien, on peut se dire que oui, je vous ai dit ça, ça et ça, mais finalement, après un peu de temps, je me rends compte qu'il faut ajuster ça, modifier ça. Et puis finalement, les discussions qu'on a eues avec les personnes qui étaient autour de la table ou avec l'architecte ou avec l'élu ou avec le voisin me font dire que il faut qu'on change. Donc cette notion de programmation ouverte, moi, je la traduis par la volonté de, non pas d'être une girouette, mais de bien prendre le temps d'ajuster ces objectifs à l'usage. Si vous voulez, nous, on est considérés comme la collectivité, par exemple, quand on construit un bâtiment, ou vous, en tant que particulière, vous allez être maître d'ouvrage. Et en fait, Patrick Bouchain et puis les gens de la preuve par 7 nous ont mis dans la tête, mais pas avec des coins, avec de la pédagogie, la notion de maître d'usage. C'est-à-dire que l'usage, c'est un fil conducteur qui me paraît hyper important pour prendre en considération comment on vit dans un village. Vous voyez, la notion d'habitat, il faut la mettre bien en parallèle, ou en tout cas bien en connexion avec la notion d'habiter. Habiter, c'est important, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est pas acheter, c'est pas louer. Habiter, c'est vivre avec le village, avec ses voisins, avec avec sa famille, avec le territoire. Donc, programmation ouverte, Ça veut dire s'ouvrir pour moi aux autres, à son environnement, à son entourage, aux aménités du lieu et les connaître.
Et enfin, dernière question, comment cette méthode pourrait venir nourrir et surtout faire évoluer les documents traditionnels d'urbanisme ou les projets de territoire ?
Bah ça, c'est fondamental. Hein. Enfin, je ne veux pas dire que Terreigna va révolutionner l'urbanisme du monde, hein. Mais en tout cas, moi, j'espère que ça va au moins révolutionner les façons de penser sur notre territoire à l'échelle locale, c'est-à-dire communale, mais aussi intercommunale, et pourquoi pas au niveau du pôle d'équilibre, le PETR, là, le PI, qui sont des strates administratives, mais qui, en fait, peuvent essayer de dire à un territoire, essaye de réfléchir à la façon dont tu veux aménager ton territoire. Et plutôt que de plaquer des méthodes qui viennent d'une espèce de copier-coller de ce qui a été fait ici ou là, sans dire d'ailleurs hein, que c'est mal ce qui a été fait, mais je pense qu'il y a une espèce d'authenticité à rechercher et à faire en sorte que chaque cas est un cas particulier. Et ce que Patrick Bouchain appelle le permis de faire dans la preuve par 7, moi, c'est vraiment important parce que vous voyez, si on compare ce qu'on a fait jusqu'à présent avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène et qui est une espèce de façon maintenant que je trouve trop artificielle de considérer les problèmes du quotidien avec le permis de passer à l'âge du fer, mais du fer FAIRE, ça veut dire redonner aux habitants la capacité à imaginer leur avenir, vous voyez, de passer à un futur désirable. Et ça, cette façon de faire est pas encore monnaie courante et loin de là. Et je trouve que c'est nécessaire de redonner aux habitants, et dans lesquels je mets les élus, hein, parce qu'avant d'être élu, moi j'étais habitant, aux habitants d'un territoire une capacité à organiser leur cadre de vie, à le structurer, à le réfléchir, à le mettre en question et à faire une espèce de friction sociale au bon sens du terme pour dégager une énergie qui sera au service du territoire. C'est ça pour moi l'enjeu qui est le nôtre d'essayer d'expérimenter, parce qu'on a des échecs hein, bien évidemment, hein, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est une expérience. De faire en sorte que ce permis de faire, moi que je trouve très légitime de vouloir mettre en œuvre, eh ben, puisse trouver une concrétisation dans les territoires qui sont les 7 échelles de la preuve par 7. Et une des échelles, c'est Perigna, et on essaye de contribuer à cette dynamique du mieux qu'on le peut.
Voilà, Jean-Pierre Buch, maire de Perigna-sur-Allier. Alors, revenons sur la genèse du partenariat entre l'association et le ministère de la Transition écologique. Pauline Sirot, dans quel contexte plus global s'inscrit-il ?
Alors, pour la DGLN, c'est tout d'abord la rencontre avec Patrick Bouchain, Grand Prix de l'urbanisme, qui, en tant que figure de proue d'expérimentation à la rencontre de l'urbanisme et de la politique, interroge le rôle du projet urbain en tant que moment fondateur pour inventer nos territoires de demain et donc comme support de l'action collective au service des attentes et des besoins d'un territoire. L'objectif de cette démarche expérimentale d'urbanisme est bien de promouvoir le recours à des approches inédites pour faire émerger des solutions locales, comme on a pu l'entendre de suite avec Jean-Pierre Buch. Dessiner des nouvelles manières d'aménager collectivement le territoire et transmettre des nouvelles méthodes de concevoir le projet urbain à partir du permis de faire. Et cela en agissant à partir de plusieurs échelles, qui sont 7 échelles, reflétant la diversité des réalités territoriales. À travers le partenariat, la DGLN a donc suivi pendant 6 ans les travaux de l'association pour éclairer une politique publique, nos politiques publiques, et mesurer aussi les potentiels des territoires à enclencher des dynamiques transitionnelles, écologiques et socio-économiques, à partir de questions concrètes qui sont comment partir du terrain et de ses acteurs pour saisir des grands sujets de société et retrouver dans l'acte d'aménager la constitution d'un commun, qu'il soit matériel, donc le bâtiment, l'espace public désaffecté, la friche, ou immatériel, le partage d'expériences et de savoirs partagés. Et aussi, comment faire pour que les projets urbains dépassent des réponses formelles, donc qu'ils soient vraiment adaptés à la situation locale et qu'ils puissent transformer en support d'action collective au service des attentes et des besoins d'un territoire. Donc il nous paraît vraiment indispensable aujourd'hui d'accompagner les projets de territoire, mais également susciter l'émergence de solutions collectives et durables, en mettant autour de la table aussi bien les élus, les porteurs de projets, les habitants, donc ce qu'appelle la preuve par 7, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'usage, en les impliquant aussi bien aux échelles stratégiques que jusqu'au quotidien des citoyens, pour nous paraît essentiel pour pouvoir entrer en transition et faire entrer en transition les territoires, mais aussi tous les acteurs. À l'heure de la planification écologique, permettant de donner des grandes priorités sur l'ensemble des secteurs, qu'ils soient l'agriculture, la biodiversité, le bâtiment, l'énergie, l'industrie, les transports, et où le gouvernement établit une feuille de route pour déployer un plan opérationnel afin d'être au rendez-vous européen de la baisse des émissions nettes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 90 et de se projeter dans la neutralité carbone, il est du rôle de l'État de proposer au territoire, en réponse à la stratégie de planification à plus long terme, des outils, des démarches, des méthodes, des cadres variés pour permettre les négociations, les arbitrages, la contractualisation, rendue nécessaire par la complexité des situations et l'ampleur des enjeux. En particulier à l'appui d'une méthode itérative offrant une place à l'initiative locale par la programmation urbaine ouverte et la permanence territoriale et la possibilité d'inventer en faisant.
Alors, la loi climat et résilience de 2021, qui instaure l'obligation de zéro artificialisation nette, dit ZAN, à horizon 2050, j'imagine que ça accentue cette dynamique de renouvellement. Dans ce contexte, comment les élus sont-ils accompagnés dans leurs projets de renouvellement et de réhabilitation par la DGALN?
Alors, face aux enjeux sanitaires, socio-économiques, environnementaux sans précédent, il est urgent de redéfinir le modèle de développement soutenable et basé sur une consommation limitée des ressources. Donc ainsi, la loi climat résilience, qui a été façonnée en s'appuyant sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, s'inscrit dans ce contexte, mais implique également, d'une part, une injonction contradictoire, donc qui est de développer de manière soutenable tout en consommant de manière limitée les ressources, et qui est l'affaire de tous, qui implique de remettre autour de la table tous les citoyens pour accélérer la montée de la résilience de nos territoires et réduire les inégalités qui sont exacerbées par ces crises. Ainsi, ces nécessaires mutations constituent une opportunité pour rassembler élus, sociétés civiles et porteurs de projets autour de nouvelles coopérations au service d'une meilleure qualité de vie. D'autre part, cela implique nécessairement pour les territoires d'engager des projets de réhabilitation, de transformation, d'intensification, notamment en redonnant des usages à des sites abandonnés. L'État apporte bien sûr un soutien financier, notamment via le Fonds vert, en apportant des dotations pour des projets fortement engagés sur le volet écologique qui permet de reconquérir des friches, des bâtiments vacants et de renaturer nos villes et villages, mais aussi par l'apport de méthodes et pratiques innovantes pour aider à la mise en dynamique de ces territoires. Ainsi, la preuve par 7 est donc une initiative qui est, à notre sens, primordiale à populariser, avant tout dans sa démarche plutôt que dans ses résultats, car c'est une façon efficace de se poser les bonnes questions pour emprunter les différents chemins de la transition qu'il faut reproduire et généraliser. Cela passe bien évidemment par la formation et l'embarquement dans la dynamique globale des élus locaux, notamment, et des services déconcentrés de l'État en particulier. Avec pour objectif, même s'ils sont apparemment contradictoires vu la diversité et la disparité des initiatives locales, de faire France, pour reprendre l'expression de Daniel Béard. Cela passe également par une réécriture collective de nos valeurs et des régimes de gouvernance qui fondent nos sociétés pour éviter que ces transitions restent circonscrites à des sphères essentiellement institutionnelles et scientifiques. Afin de transformer ces sphères, cette manière concrète et massive vers des territoires plus durables, donc que nous appelons avec un mantra de un territoire plus sobre, donc un territoire responsable, un territoire plus résilient, qui soit adapté et réactif aux futures crises, qui soit inclusif, donc territoire pour tous et pour toutes, et créateur de valeur vers davantage de coopération. La DGLN déploie un certain nombre déjà de dispositifs, notamment le référentiel éco-quartier, les ateliers de territoire, les projets partenariaux d'aménagement, mais souhaite que la preuve par 7 et donc tout le partenariat tissé par notre atelier commun permettent d'envisager de nouvelles manières d'accompagner non seulement les élus, mais aussi les citoyens, au plus près de la fabrique de la ville, sur la ville, afin d'en garantir leur habitabilité. Nous explorons par ce biais de nouvelles solutions pour renforcer la capacité des territoires à faire projet à partir de leurs ressources. Et c'est ces nouvelles méthodes comme la permanence territoriale et la programmation ouverte qui réinterrogent la culture de l'aménagement et du projet urbain.
Alors justement, le ministère de la Culture, soit plus précisément la DGPA, est également partenaire de l'association. Corinne Langlois, je vous pose la même question à la DGALN. Dans quel contexte ce partenariat s'inscrit-il ?
En fait, il est issu d'un partenariat qui est antérieur à la preuve par 7, mais à un dialogue un peu constant qu'on a, nous, avec le monde de l'architecture, qui est un monde où on réfléchit beaucoup en anticipation finalement de ce qui se fait. C'est un monde de créatifs et de culture. Ce qu'on a cherché à promouvoir dans les projets qui sont accompagnés par la preuve par 7 et qu'on soutient, c'est un modèle ou au moins un type de commande architecturale qui permette de casser un peu le cadre classique de la commande publique actuelle qui est très normée depuis les années 80. Quand vous prenez les textes de la commande publique en matière d'architecture, vous avez un programme précis, vous avez un chiffrage précis, vous avez des rôles et des missions prédéfinis et à chaque fois un cadre assurantiel qui va avec, qui est aussi prédéfini. Vous rajoutez à tout ça un cadre normatif sur la manière de construire et de concevoir qui est de plus en plus étoffé et vous avez au résultat une diversité de réponses architecturales possibles qui se réduit, une homogénéisation du cadre bâti quotidien qui efface les particularités géographiques et culturelles. Finalement, ça fonctionne comme une production industrielle qui est un peu, voire beaucoup déshumanisée. Et moi, je pense que finalement, et on voit bien aujourd'hui que ce modèle atteint ses limites, parce que comme il veut répondre à tout, il répond à rien ou en fait, il répond à tout, mais mal. Et ça, c'est quelque chose contre lequel les architectes s'insurgent depuis longtemps parce que ça prive finalement la possibilité de réaliser des projets qui soient beaucoup plus adaptés au contexte local, mais pas uniquement géographique et technique, au cadre local qui soit aussi culturel et social. Et ça, notamment, les gens qui viennent du design, c'est le cas de Patrick Bouchain, mais c'est le cas d'autres, Patrick Rubin ou autres sont aussi des gens qui viennent du design, sont fournissent pas mal d'idées sur la manière d'atteindre un objectif sans mobiliser les moyens qui sont prédéfinis. Le monde numérique aussi s'est saisi de ces modes de faire dès les années 90 et en fabriquant le projet avec les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on a, plus ce schéma très séquentiel où chaque séquence suit la suivante, mais un modèle beaucoup plus itératif par cycle. On réunit les parties prenantes, que ça soit l'expert, le gestionnaire, le fabricant, l'usager. On se met d'accord sur une première étape nécessaire pour tous. On fabrique, on teste, on rend opérationnel. Et une fois que c'est opérationnel, on passe à la strate suivante avec la même méthode. C'est ce qu'on appelle les méthodes agiles de gestion de projet ou design thinking. Tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est en fait. Donc à un moment donné, il faut revenir quand même à des éléments un peu fondamentaux. C'est tout à fait pertinent, notamment quand on travaille sur des espaces publics. Reconfigurer des espaces publics, c'est faire un pari sur les usages. Si on ne teste pas, on va peut-être figer en dur des choses, ça va coûter extrêmement cher à tout le monde, et finalement, au bout du compte, ça ne va pas marcher. Pour les friches et les bâtiments, c'est la même chose, ou même des friches qui ne sont pas bâtimentaires, c'est la même chose. C'est l'usage progressif des lieux qui va permettre peu à peu de trouver le programme qui sera le plus pertinent, à la fois pour les acteurs locaux, qui soit utile socialement, qui soit réalisable techniquement, tant qu'à faire, et qui soit aussi responsable financièrement, tant qu'à faire aussi. Et tout ça en renouant vraiment avec la dimension culturelle de l'architecture et de l'aménagement, ce qu'on appelle le Bauhaus en Europe, qui est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Le cadre aujourd'hui de la commande architecturale n'est absolument pas adapté à ces façons de faire. Et c'est pour ça que dans la loi Création architecturale et patrimoine, en 2016, on a créé un article qui permettait dans un certain nombre de cas d'expérimenter pour répondre à un besoin local en atteignant les objectifs, mais sans forcément respecter le cadre réglementaire qui définit des moyens pour le faire. Donc ça s'est appelé le permis d'expérimenter, le permis d'innover, et c'est ce qu'on met plus largement sous la notion de permis de faire. Quand on regarde ce que ça donne au niveau de la preuve par 7, et c'est bien d'avoir un petit corpus comme ça, des petites souris à observer, comme dans un laboratoire, on voit bien la pertinence de ce type de méthode où on laisse finalement à l'architecte, au concepteur, hein, d'une manière plus générale, une marge de manœuvre, de créativité, d'innovation pour répondre à une difficulté locale en dérogeant au cadre normatif. Évidemment, il s'agit absolument pas de faire prendre des risques aux usagers, ni à ceux qui financent l'opération, hein, c'est évident. Mais on part de l'analyse concrète des lieux pour trouver la bonne solution. Moi, j'aime bien la notion de juste projet. C'est ce qui est juste et qu'on appelle, enfin, c'est ce type de méthode, ce qu'on appelle la programmation ouverte. Quand il y a ouvert, on ouvre la porte aux autres. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce type de démarche et qui est très culturel pour nous.
Alors justement, la méthodologie développée hein, par les expérimentations de la preuve par 7 permet bah, non seulement d'engager le projet dans la transition écologique, mais aussi dans la transition culturelle et sociétale que de nombreux acteurs appellent de leurs vœux. Dans ce contexte, Corinne Langlois, comment la profession d'architecte est-elle accompagnée pour, on va dire, mieux relever ces défis?
Déjà, je vais faire une petite boutade, mais le métier d'architecte, en fait, il est souvent un peu en avance de phase. C'est bien tout l'intérêt de ce type de métier de concepteur, hein, c'est qu'ils sont en général plutôt en avance de phase. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut entraîner une dynamique générale pour que tout le monde prenne le mouvement. Et là, on n'y est pas encore tout à fait. Quand on est architecte, la caractéristique du métier d'architecte, et peut-être en France particulièrement, on allie la culture et la technique. C'est vraiment à partir de là qu'on développe des capacités d'innovation et de créativité. C'est vraiment dans cette alliance. Quand on regarde aujourd'hui le cadre normatif, ces capacités-là d'innovation et de créativité, elles sont très réduites et avec des conséquences qui sont pas neutres d'un point de vue sociétal. On finit par répéter des modèles d'aménagement, de construction, alors y compris en Outre-mer, alors là on commence vraiment à marcher sur la tête, qui s'éloignent de plus en plus des attentes sociétales, mais aussi du bien-être des usagers, de leurs pratiques, et qui s'avèrent de plus en plus en décalage avec ce que la transition écologique va imposer, c'est-à-dire une rénovation des modes de faire, une rénovation des modèles économiques et évidemment une évolution des compétences de toute la chaîne d'acteurs, pas uniquement des architectes, de l'investisseur immobilier, du maître d'ouvrage, de l'architecte, des entreprises et de ceux qui entretiennent derrière. Donc c'est tout ce mouvement qui est en jeu et ça ne se décrète pas en fait. Il faut arriver à créer la dynamique pour mettre tout ce petit monde en mouvement. Quand on parle de sobriété en matière d'architecture, on passe par la notion du juste projet que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire il ne faut pas faire trop, mais il ne faut pas faire trop peu non plus. Il faut juste penser le projet pour qu'il dure, pour qu'il s'inscrive dans le temps. Et ça ne peut pas se faire sans avoir une connaissance fine du contexte qui ne va pas être uniquement ce qu'on peut avoir dans n'importe quel état des lieux de cahier des charges, des données géographiques et techniques. Quelquefois, il y en a 500 pages et finalement, on passe à côté de quelque chose d'un peu fondamental. C'est la connaissance, c'est capter l'immatériel, c'est-à-dire capter tout ce qui va être autour des savoir-faire, des pratiques locales. Et pour ça, on a besoin de s'immerger dans le contexte du projet, de passer du temps. Ça prend du temps. Et ça, c'est quelque chose, se dire qu'on peut allouer du temps à un projet, aujourd'hui, dans les modèles économiques, ça ne tient pas. Et en faisant ça, finalement, en utilisant cette longue phase d'observation, On arrive aussi à apprivoiser les acteurs locaux. On est un petit peu dans le petit prince, hein. Chacun se regarde et se connaît de mieux en mieux. Et finalement, on arrive à gagner la confiance, qui est une étape absolument fondamentale pour co-construire. Et ça, c'est tout l'intérêt de la permanence architecturale. Alors, on voit ce type de posture se développer beaucoup hein, chez les professionnels de l'architecture. Alors, soit c'est sous une forme assumée de permanence architecturale ou urbanisme tactique, transitoire, culturel, enfin, tous ces jolis mots. Mais quand même, le modèle économique est incertain aujourd'hui. Le mode de contractualisation l'est tout autant. Et le mode assurantiel, je ne vous dis même pas. Alors, ça, c'est bien quand c'est assumé, mais ça se fait aussi sous forme informelle, de plus en plus souvent, à la demande des acteurs locaux, où là, on n'a aucun dispositif contractuel, du temps passé, des compétences métiers mobilisées, et au bout du compte, on travaille sans contrat, sans rémunération, potentiellement en assumant des responsabilités professionnelles. Donc ça, si on est nos deux ministères ont des professionnels de conception de l'espace, il faut vraiment faire évoluer ça. Ça marche, donc maintenant, quel cadre on crée pour ça? Ce qui veut dire qu'il faut clarifier ces nouveaux positionnements qui vont être de plus en amont de la commande, vers même quelquefois en émergence de la commande. Il faut décrire ce qui est fait et la preuve par 7 permet de décrire ce qui est fait concrètement, avec qui on travaille, comment on travaille et quelle valeur on crée pour le territoire. Et après, de travailler, parce que c'est la base, hein, de nommer pour rendre concret, on peut ensuite travailler sur les contractualisations, les assurances et les modèles économiques. Donc ça, évidemment, ça veut dire faire évoluer les savoirs et les savoir-faire, parce qu'un diagnostic, le mener, ça s'apprend, et surtout quand ça dépasse le cadre bâti. Donc ça a évidemment des impacts en matière de formation initiale et de formation continue, sachant qu'aujourd'hui, 80% de l'activité architecturale se fait sur des immeubles existants. Donc, ce n'est pas un non-sujet, hein, c'est même le cœur du sujet. C'est la même chose, savoir se positionner vis-à-vis des parties prenantes pour faire émerger le juste projet. Ça, il ne faut pas évidemment se départir de la compétence de concevoir le projet. C'est quand même une compétence socle hein, en matière d'architecture ou pour les paysagistes ou les urbanismes. Mais ça passe aussi par des compétences de médiation. Et c'est des compétences de savoir-être aussi. Alors, le savoir-être, ça ne s'acquiert pas, mais ça veut dire quand même qu'au niveau des recrutements des étudiants dans ces filières, on va peut-être arriver à avoir des profils sociaux, géographiques, scolaires différents. Et ça, c'est quand même très bien. Et d'apprendre aussi comment on mène une médiation en architecture. Ce qui veut dire que si on veut avoir une architecture qui renoue avec ses racines culturelles et qui devient plurielle, il va falloir faire évoluer et dire clairement qu'on fait évoluer ces modèles. On en aura toujours besoin de grands monuments, on en fera toujours, mais on fera aussi de plus en plus d'interventions par petites touches dans une ville constituée qui toucheront les gens au plus près de leur quotidien. Et là, quand on sait aujourd'hui que le temps, le risque et le nombre de parties prenantes dans un projet sont les ennemis jurés de l'équilibre des opérations telles qu'elles sont calculées dans un compte à rebours de promoteurs, on voit très bien que si on ne touche pas au modèle économique et aux façons de faire, on n'arrivera pas à cette bascule qui est nécessaire pour la transition écologique des territoires.
Alors, la SNCF Immobilier, maître d'ouvrage du projet de programmation ouverte à Lunel en Hérault, a été accompagnée par une architecte, hein, Mathilde Tourniol du Clos, qui a assuré la permanence architecturale et urbaine avec de jeunes architectes en formation, justement. Je vous propose d'écouter Gilles Thomas, responsable patrimoine sud à la SNCF Immobilier. Bonjour Gilles Thomas, vous êtes responsable site stratégique Grand Sud pour la direction immobilière Grand Sud SNCF Immobilier. Quelles ont été les motivations qui ont poussé la SNCF Immobilier à adopter une méthodologie différente pour réhabiliter l'ancienne gare de Lunel, alors délaissée?
Bonjour, merci de cette question. Je vous répondais peut-être en deux temps. D'abord, c'est une volonté. La société évolue, la SNCF Immobilier a des nouvelles approches en face de cette évolution de société. J'en veux pour preuve l'urbanisme transitoire qu'on a développé depuis plusieurs années sur plusieurs sites en France, notamment à Paris, Grande Contrôle peut-être que vous connaissez en gare de Lyon. Donc l'idée, c'était de se permettre pour un groupe comme SNCF d'oser, de continuer à expérimenter et de prendre le temps, peut-être faire un pas de côté dans un système qui est assez massifié, je dirais. Donc ça, c'était une volonté propre à SNCF Immobilier qui représente plusieurs propriétaires du groupe SNCF. Et c'était aussi, du coup, des circonstances favorables, puisqu'il y a plusieurs facteurs qui se sont réunis et une forme d'alignement entre d'abord la réalisation de travaux du pôle d'échange de Lunel, dont la livraison s'est effectuée en 2020, à l'été 2020. Et ces travaux qui ont révélé complètement ce bâtiment, puisque ce bâtiment était masqué, il avait complètement disparu des esprits et physiquement du paysage. Il était derrière des bâtiments obsolètes, une rideau de végétation complètement dégradée. Et le travaux du pôle d'échange l'ont révélé. Il a été remis à l'honneur avec un parvis assez généreux d'environ pas loin de 2000 m² devant lui. Donc c'est devenu une espèce d'évidence de travailler sur ce bâtiment. Ensuite, ce bâtiment avait la particularité d'être un ouvrage d'art. Donc au-delà d'être un bâtiment, c'était un ouvrage d'art, c'est-à-dire que il soutient ce bâtiment, la voie ferrée qui est à un niveau un peu supérieur sur un viaduc, puisque Lunel connaît des problèmes d'inondabilité assez fréquents. Donc le fait générateur, c'est que ce bâtiment n'était pas cessible, on ne pouvait pas le vendre, parce que justement il constitue l'intégralité d'un ouvrage d'art, il vient soutenir la voie ferrée. Donc c'est à la conjonction de ces deux facteurs, la révélation de ce bâtiment, le fait qu'on ne puisse pas le vendre, mais de le conserver dans notre patrimoine, qu'on s'est effectivement intéressé à en faire quelque chose. Et c'est aussi une rencontre. Ça a été la rencontre avec Patrick Bouchain et son équipe à l'époque, puisqu'ils travaillaient sur le développement de leur approche de preuve par 7. Les 7 niveaux étaient quasiment identifiés dans ce dispositif preuve par 7. Seul manquait un bâtiment public désaffecté, puisqu'il y avait la volonté de travailler sur un bâtiment public désaffecté. Donc Patrick Bouchain, à l'époque, s'interrogeait sur une ancienne école, peut-être une ancienne gendarmerie, en tout cas un bâtiment public qui avait perdu sa fonction, son usage, et d'essayer effectivement de le retravailler. Quand on a fait une rencontre sur place, sur site, avec Patrick Bouchain et son équipe, ça a été, je crois, une forme de coup de foudre, et on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire dans ce bâtiment. Donc, une volonté qui croise des circonstances qui sont plutôt favorables, une collectivité qui était ouverte à cette approche, en tout cas qui ne donnait pas d'interdit. C'est comme ça que l'histoire a pu commencer.
Et alors justement, qu'est-ce que ça change pour un opérateur immobilier comme la SNCF ?
Alors, ce que ça change, enfin, le changement, le véritable changement, pour l'instant, officiellement, on ne l'a pas, puisque le retour d'expérience de ce temps de permanence, puisqu'il y a eu 2 temps de permanence, on arrive à la fin de l'acte 2, va se livrer au mois d'octobre, donc ce mois d'octobre 2023. Donc c'est à ce moment, effectivement, qu'on pourra tirer tous les enseignements de ce travail. Par contre, évidemment, il y a des éléments qui surgissent. Donc ce qui change, c'est quoi finalement ? C'est comment tester des outils, donc la programmation ouverte que l'on n'avait jamais testée auparavant. C'est cette forme de construction de la ville collectivement, donc pour capter les remontées au plus proche du territoire. Et pour nous, c'est aussi ce qui n'apparaît pas dans les approches traditionnelles. Donc je m'explique, c'est les batteries d'études qu'on peut développer, on a l'habitude, on sait faire. Mais ce qui n'est pas forcément évalué, c'est révéler les invisibles comme ce qui a été le cas pour effectivement ce bâtiment et la découverte d'une petite structure qui travaille sur l'UNEL, qui s'appelle le Temple Caché. Donc cette structure, effectivement, n'était absolument pas dans les radars de la collectivité. Et c'est le travail fin de la permanence qui l'a identifié. Donc c'est une structure qui travaille pour le monde de la publicité, le monde du cinéma, de la musique, et qui produit des supports vidéo avec du créatif fort et une patte très personnelle. Et cette structure qui était sur le point de quitter le territoire parce qu'il n'y avait plus d'offres sur du plateau tertiaire a été identifiée, révélée, et potentiellement c'est cette structure qu'on va installer qui sera une des briques qui va occuper ce bâtiment avec d'autres activités qui viendront à rejoindre. Donc ça vient témoigner directement de ce que peut être la révélation d'un travail fin d'approche d'une structure d'un dispositif comme la prévention ouverte et ce que peut mettre en œuvre la permanence, donc avec à sa tête notre permanente en chef qui est Mathilde Tourniol-Duclos. Donc ça, c'est une approche complètement nouvelle pour nous d'intégrer dans la fabrique du foncier, du projet urbain, tout ce contexte local.
Voilà, Gilles Thomas, responsable patrimoine sud à la SNCF Immobilier. Alors pour conclure, Sophie Ricard, comment passer de l'expérimentation à la généralisation de la méthode de la programmation ouverte ?
Alors déjà, je pense qu'il y a des cadres qui sont existants. C'est-à-dire que avant de parler de la commande publique, on a des dispositifs de politique publique aujourd'hui qui sont mis en œuvre sur les territoires, comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, pour la DGALN, les ateliers de territoire, par exemple. Les résidences d'architectes qui sont aussi promues par côté ministère de la Culture. Je pense qu'il faut aller dans ces dispositifs. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, il y a de l'ingénierie, il y a des institutions qui sont localisées sur les territoires et des territoires qui sont déjà, on va dire, révélés dans le cadre de ces dispositifs. Il faut peut-être aller les hacker, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire aller rencontrer l'ANCT, aller rencontrer les porteurs de projets, les institutions, et surtout essaimer cette méthodologie. Un chargé de projet Petite Ville de Demain ou Action Cœur de Ville, il doit être au courant de comment ça se passe, une permanence architecturale. Il doit être là sur le temps long, il ne doit pas changer tous les 6 mois. Ça doit être des personnes qui accompagnent sur un temps très très long. L'argent, on l'a. Donc ce n'est pas un problème d'argent. Le temps, on peut l'avoir aussi. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec le témoignage de Gilles, que là, on remplace juste une étude classique. C'est-à-dire qu'on prend l'argent de la programmation, Corinne l'a très bien dit tout à l'heure, on est séquencé, mais l'argent, il est là dans la commande publique. Le problème qu'on a dans la commande publique, c'est qu'on a des acteurs différents qui viennent à chaque fois rebalancer une autre phase, ou en tout cas reconsidérer l'étude de faisabilité en disant fait appel à l'économiste derrière qui va remettre en question l'étude de faisabilité, mais on n'aura plus le bureau d'études qui a fait l'étude de FESA, derrière il le rend au maire qui n'est plus capable de derrière lancer quelque chose d'opérationnel, où ça peut prendre des temps et l'usage est parti, le programme est parti, le besoin n'est plus là. Donc maintenant c'est reconsidérer que la permanence, elle peut rassembler les phases de la commande publique, c'est-à-dire qu'elle est là en amont de la commande pour provoquer ce qu'on appelle une étude de faisabilité en acte. Ça se paye, ça se chiffre dans une commande publique, ça, le cadre existe, sauf que c'est pas une étude de faisabilité sur plan, c'est en acte sur le terrain. Ensuite, elle doit rester là sur le temps long, accompagner à la fois la rédaction et la mise en œuvre du chantier derrière. C'est-à-dire que le chantier, comme l'a très bien dit aussi, comme l'ont dit Corinne et Pauline tout à l'heure, c'est-à-dire que le chantier, c'est aussi le temps de vie, c'est une économie de projet, il faut en faire bénéficier tout le territoire. C'est plus, on va faire vite du chantier, on a un mode industriel de production du logement, on fait appel aux entreprises tout corps d'État, ou on fait de la sous-traitance. Non, on se dit qu'on revalorise aussi les filières territoriales. Sur les questions de biorégion, on a besoin de travailler là-dessus. Sur la question de la réindustrialisation des territoires, on a besoin de travailler là-dessus. Et il n'y a qu'un architecte ou urbaniste en conception sur le temps long qui sera en capacité de rassembler ces acteurs de la commande publique et aussi les futurs gestionnaires. Le gros problème qu'on a aussi dans la commande, c'est derrière où on ne sait pas vendre comme il faut du logement qu'on a conçu, où on ne sait pas gérer des équipements publics comme autrefois ou comme dans les années 80 parce qu'on n'a plus les modalités de fonctionnement qui vont avec, on n'a plus les budgets de fonctionnement qui suivent. Donc comment on fait pour travailler en amont à la fois avec les opérateurs, les maîtrises d'ouvrage, mais aussi les entreprises qui vont faire ce bâtiment, les artisans en local, mais aussi les gestionnaires futurs, c'est-à-dire les usagers, c'est-à-dire la population. Il faut qu'elle soit dès le départ à la barre et à la maîtrise de la rédaction de cette commande si on veut derrière gagner sur les fonds de fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'on gagne de l'argent. Il ne faut pas croire que ça coûte plus cher. On gagne du temps et de l'argent derrière puisqu'on met la matière grise en amont. Donc il faut prendre... Il y a des cadres de politique publique qui existent, il faut essaimer. Il y a aussi des institutions qui existent en local sur le territoire, les CAUE, les PNR, les maisons de l'architecture, et il faut absolument travailler avec elles. Essaimer aussi ces méthodologies et ces pratiques pour qu'elles puissent les diffuser chez les collectivités territoriales, mais aussi chez les particuliers, chez les promoteurs immobiliers, chez les petits opérateurs qui auraient envie de faire autrement ou de faire une opération immobilière ou faire un investissement investissement un peu haute sur un patrimoine à réhabiliter. Donc il y a des cadres qui existent et ensuite, ben, je finis par ça, si on veut aujourd'hui, quand on est maire de petite commune, se dire mais moi j'ai besoin de trouver, j'ai pas 100 000 euros aujourd'hui pour lancer une étude, on peut trouver les 100 000 euros, mais par contre dans la commande publique, il y a ce qu'on appelle les achats innovants, on peut s'en servir, ces achats, ce règlement, on ne le sait pas, on va éditer un guide de ce qui existe déjà dans la commande publique, dont on peut se servir avec la preuve par 7, qui va nous aider. Le guide des achats innovants permet justement, en dessous de 100 000 euros d'études, de ne pas faire de mise en concurrence, de passer directement un contrat avec une équipe de maîtrise d'œuvre, parce qu'on estime que l'étude est innovante, est performative ou est expérimentale. Donc un maire peut se saisir de ça pour éviter les appels d'offres. Donc on a plein d'exemples et il y a l'école du terrain qui va nous aider à essaimer les pratiques.
Alors je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Hélène, je me tourne à présent vers vous pour répondre justement à ces questions de nos chers auditeurs. Est-ce qu'il y en a ?
Oui, Bérénice. Alors, une première question, peut-être pour Sophie, au-delà de l'essaimage, concrètement, une collectivité qui nous écoute aujourd'hui et qui découvre ce dispositif, comment elle peut s'y prendre ? Quel est le contact d'entrée ?
C'est la preuve par 7. Alors, on est très visible sur les réseaux et sur Internet. Donc, il y a un site Internet qui s'appelle La Preuve par 7, www.lapreuveparset. Il est très bien référencé. Et l'école du terrain, www.lecoleduterrain, qui sont tout de suite très visibles. Là, vous avez les contacts. Et on est souvent appelés par ces sites-là parce qu'on a entendu parler de nous, soit par des collectivités, soit par des associations issues de la société civile qui aimeraient reprendre possession d'un patrimoine. Là, par exemple, on va faire un rendez-vous sur le sanatorium de Cluny à ce sujet-là. On a la commune du Teil qui nous avait appelé suite au séisme pour savoir comment elle réparait avec d'autres types de chantiers, les compagnons bâtisseurs, comment on faisait une œuvre collective suite à un séisme pour réparer l'habitabilité de cette petite ville, etc. etc. Donc on peut nous contacter de cette manière-là.
Une autre question, Hélène ?
Peut-être une seconde question et qui servira de conclusion. Comment convaincre des décideurs en fait, de s'engager, de prendre un peu cette prise de risque ? Pour faire de la permanence architecturale et de la programmation ouverte.
Alors généralement c'est les décideurs qui viennent à nous à chaque fois, c'est quand on est dans des situations où les maires, les opérateurs sont bloqués et effectivement se disent qu'à un moment donné dans les cadres classiques, comme on l'a très bien dit tout le long de cette émission, ça ne suffit pas et on a besoin de faire un pas de côté et de trouver une agilité finalement dans la commande publique. C'est l'agilité qui est importante, comme tu l'as bien rappelé, Corinne, et du coup ces maires appellent en disant de toute façon on est bloqué, on ne sait plus rien faire et on ne va pas perdre d'argent sur la chose. Donc, on va tenter une autre forme.
Je crois que Corinne, tu veux... Oui, Corinne.
Oui, je pense qu'en fait, nous, on fait aussi au sein de l'État un effort de diffusion de ces méthodes et avoir un dispositif national d'expérimentation, ça sert aussi à faire de la formation action auprès de nos services, que ça soit en DDT ou... En UDAP ou en DRAC au sein d'un CAUE par exemple. Donc ce contact de proximité peut être aussi sécurisant pour un élu parce que si l'État y croit, c'est que ça doit quand même pas être trop fantaisiste, quoi. Donc c'est aussi de nature à sécuriser un petit peu. Il faut apprendre à prendre des risques dans la vie, autrement on fait rien.
Alors cette émission consacrée à la permanence architecturale touche à sa fin. Merci à vous chers auditeurs pour avoir suivi cette émission. Vous retrouverez, je vous le rappelle, le podcast sur le site et l'application de Radio Territoria. Merci à nos invités, Pauline Siro, chef du bureau des stratégies territoriales à direction de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Corinne Langlois, sous-directrice de l'architecture, de la qualité, de la construction et du cadre de vie à la Direction Générale du Patrimoine et du Logement au ministère de la Culture. Et enfin, merci Sophie Ricard, co-directrice de l'association Notre Atelier Commun. Et merci Hélène Parmentier. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt dans le MAC de l'aménagement du logement et de la nature.
Le MAC de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.